Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Un jour, on se souviendra peut-être qu'en 2013, Jeff Bezos n'était encore que la 19e fortune mondiale et qu'il aura par la suite inexorablement remonté au classement général pour endosser enfin le maillot jaune. Un jour, on se souviendra peut-être qu'Amazon ne cessa, au début du troisième millénaire, d'élargir son champ d'activité et sa domination sur le commerce mondial en ligne du tout et n'importe quoi, mais hélas aussi des livres. Jusqu'au moment où, de l'histoire de Jeff Bezos, c'était inévitable, et d'Amazon, c'était probable, s'écrivit le mot fin, puisque, comme l'a chanté le très sage Michel Jonas, « il n'y a rien qui dure toujours ». Mais en attendant, on se souviendra qu'en 2013, dans « Les pieds sur terre », on disait ce qu'était Amazon. Les ravages qu'Amazon faisait dans l'édition et le commerce des livres, et aussi comment des libraires indépendants s'étaient organisés pour ne pas sombrer corps et biens dans les eaux glacées du fleuve amazonien. Les pieds sur terre, Amazon, l'algorithme contre le libraire, une émission diffusée la première fois le 4 novembre 2013 sur France Culture.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Les pieds sur terre, une émission proposée par Sonia Kronlund.
Un colis commandé à Paris avant 13h peut être livré dans la journée depuis le site de Saran. Vous imaginez ? Vous commandez un livre avant 13h, il peut être livré à Paris l'après-midi. Comment expliquer ça aujourd'hui au 21e siècle ? C'est bien, mais c'est quand même en pleine pampa, un hangar en pleine pampa.
Si vous commandez un livre neuf dans une librairie traditionnelle, en général, il va falloir au minimum 3 ou 4 jours pour qu'il arrive, et souvent une semaine ou 10 jours. Amazon a 90% de la production littérale française en stock, ils peuvent les servir en 48 heures.
L'objectif final d'Amazon, c'est de devenir hégémonique et de contrôler totalement le marché. On le voit déjà avec le Kindle et ses propositions pour certains auteurs de s'auto-éditer sur Amazon. Des grandes maisons d'édition aux États-Unis ont déjà mis la clé sous la porte. Il ne serait pas exclu dans les 10 ou 20 prochaines années que les grandes maisons d'édition qui sont dans le paysage éditorial aujourd'hui, et finalement on y est tellement habitué depuis plus d'un siècle qu'on a du mal à imaginer qu'elles puissent disparaître, ces grandes maisons-là sont menacées.
Qui a peur du grand méchant Amazon ? Qui se réjouit au contraire au fin fond de sa Creuse de recevoir dans la journée un livre dégoté en deux clics et livré gratuitement ? Quel effet cela fait pour un libraire de se faire griller par de géants entrepôts et quelques algorithmes ? Amazon aura-t-il la peau des éditeurs ? Dansera-t-il sur le cadavre des bouquinistes, des brocanteurs, des maisons de la presse qui vendent encore des livres ? Le hold-up vise-t-il tous les acteurs du livre ? Où y aura-t-il des survivants ? Dans Le Monde, 90 sites emploient 51 000 personnes que le grand patron d'Amazon, Jeff Bezos, 19e fortune mondiale, appelle des Amazoniens ou des missionnaires. Ils ont au passage, je vous le signale, défense absolue de parler à la presse. En plus, chez nous, en cumulant la livraison gratuite aux 5% de rabais autorisés, sachez qu'Amazon pratique une forme de dumping, mais qu'heureusement, une proposition d'amendement à la loi Lang sur le prix du livre va remédier à cela et tout rentrera dans l'ordre. L'Amazon n'est pas un long fleuve tranquille, c'est une histoire racontée par Amaury Chardot et réalisée par Lionel Quentin.
Au début, Jeff, il aura bien appelé ça « abracadabra ». Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, un de ces types de l'Ouest américain pour qui la vie, c'est de la magie. Finalement, ce sera Amazon, comme le plus grand fleuve du monde et le plus grand choix de produits au monde. Et peu importe que le Nil soit plus long de 200 km, pour Jeff Bezos, les détails, ça encombre. Sa plateforme de vente en ligne sera le plus grand supermarché des temps modernes. Et de fait, aujourd'hui, Amazon vend de tout, depuis l'épluche-légumes jusqu'à la tondeuse à gazon. On en oublierait presque qu'à ses débuts, le site s'était spécialisé dans un bien et un seul, le livre. Seulement en France, les livres, ça ne se vend pas comme des épluches patates. Ici, les libraires, patouches, exception culturelle. Beaucoup s'inquiètent donc de la concurrence d'Amazon qui menacerait aujourd'hui de tuer les librairies de proximité, voire carrément de laminer tout un secteur. Je me suis quand même demandé si tout ça ne relevait pas un peu du fantasme. J'ai donc commencé par aller faire un tour chez une libraire. Quand je suis arrivé, elle avait la tête dans ses cartons.
Attention. Ça, c'est toujours un moment super agréable. On pourrait se battre pour ouvrir un carton et voir ce qu'il y a dedans.
À 8131 km de Seattle, le siège d'Amazon, bienvenue à Châteaudun, Eure-et-Loire. Ici, il y a quelques années, Jocelyne et sa nièce Amandine ont ouvert la librairie du coin. C'est la dernière de cette sous-préfecture de 13 000 habitants.
Avec Jocelyne, au départ sur une blague, on a décidé d'implanter une librairie à Châteauneuf puisqu'il n'y en avait pas depuis 3 ans. On a démarré tout doucement avec, je sais pas moi, avec 1000 livres et puis ça s'est fait petit à petit. En centre-ville, il n'y a que nous qui proposons des livres. Il y a un hypermarché à 5 km, Leclerc, pour pas donc le citer, qui a ouvert un espace culturel il y a 3 ans, alors qu'en même temps fermé la maison de la presse qui se trouvait en centre-ville, ce qui au début nous a pas trop perturbé, mais qui prend, je pense, de plus en plus de place, même si c'est pas quantifiable. D'autant plus qu'il y a aussi la concurrence d'Internet qui prend de plus en plus de place dans le marché du livre. On a quand même relativement beaucoup de clients qui disent que ça va beaucoup plus vite par Amazon. Les gens n'ont que ce mot-là à la bouche dès qu'ils veulent acheter quelque chose. Donc forcément, ça fait peur puisque c'est une... Voilà, ils sont là pour faire de l'argent. Nous, on est là évidemment pour vivre, pour manger, mais on est là parce qu'on aime notre métier, parce qu'on aime les gens.
On n'entend parler que de ça, c'est extraordinaire, c'est formidable, alors qu'en réalité, pour moi, c'est une vaste fumisterie. Donc, on peut accepter toute forme de concurrence, c'est normal, c'est sain. Là, c'est pas de la concurrence, c'est anormal. Là, Amazon, si je dis des choses, ça va être vraiment très méchant. Et à la limite, ça nous laisse même un peu amer, hein. Parce que c'est facile pour eux. Ici, pour avoir une boutique, il y a un coût monstrueux. Ils sont dans des locaux dans le fin fond de la Pampa. Je ne sais pas si c'est chauffé, leur truc, peut-être quand même. Je sais que ça cher. Enfin bon, voilà, ici, il y a un coût pour travailler qui est déjà énorme. Comment on peut pas lutter, quoi. On peut rien faire face à ça. On passe notre temps à travailler, on essaie de pas trop y penser, en fait. Finalement, c'est ça.
Qu'est-ce que vous constatez, vous, depuis la montée en puissance de ce site-là, sur le volume de vos ventes ou de votre chiffre d'affaires?
Une diminution du chiffre d'affaires. Alors, en boutique, donc, ce qui est la clientèle qui vient nous voir pour chercher un conseil, donc là, ça a bien chuté quand même. Et après, on se sauve parce qu'on fait plein de choses à côté. On fait des salons. Alors là, on arrive à s'en sortir. Ceci compense cela. Mais en boutique, je crois qu'on est à presque 5% de chiffre d'affaires en moins par rapport à l'an dernier, qui était déjà en diminution par rapport à l'année d'avant de quelques pourcents aussi. Donc on voit bien que petit à petit, la boutique perd de ses clients quand même. Il y a quand même aussi des professeurs qui disent à leurs élèves, vous avez besoin de ce livre-là pour travailler, je l'ai trouvé sur Amazon en 2 jours. Ça, je trouve ça monstrueux d'entendre ce genre de choses, mais bon.
Combien vous arrivez à vous payer, vous ?
Nous, on arrive à se donner 1000 euros par mois, voilà, chacune. Il faut juste se contenter de peu, faire attention, et puis on est en couple toutes les deux, donc ça nous permet aussi, voilà, de manger, tout simplement, de pouvoir vivre. C'est sûr qu'on a toujours, comme tout le monde, des besoins qu'on peut pas satisfaire, ou voilà, des chaussures qu'on veut s'acheter, on s'achète des choses moins chères, mais c'est pas... C'est sûr que tout seul, ce serait peut-être beaucoup plus compliqué avec un salaire comme ça, mais là, à deux, c'est gérable, c'est jouable.
Si Amandine et sa tante, elles, tiennent le coup, chaque année, environ 150 petites librairies disparaissent, faute de pouvoir résister à la concurrence. Et pourtant, si l'on est honnête, il faut dire que le nombre total de librairies reste stable depuis 20 ans. C'est que parallèlement à ces 150 fermetures, il s'en crée à peu près autant. Sauf que celles qui résistent sont toujours plus grandes. Le problème Amazon sera donc plus compliqué que ça. En plus, il faut distinguer le commerce du livre neuf et celui de l'occasion. Et dans le cas de l'occasion, justement, Amazon, c'est bien pratique pour écouler les stocks.
Quand on a ouvert la librairie, on a immédiatement référencé la quasi-intégralité de notre stock sur Amazon.
Lui, c'est Jacques Gourceau. Il a ouvert il y a 3 ans une jolie librairie située rue Linné, à Paris, près du Jardin des Plantes.
Il y a vraiment énormément de sites de vente de livres d'occasion en ligne. Amazon est sans doute le plus important, mais de façon moins flagrante que pour le livre neuf. Amazon prend une marge que on pourrait qualifier d'assez raisonnable sur le livre d'occasion. C'est-à-dire qu'ils prennent 15% et jusqu'à avril 2013, c'était, je crois, 12%. Il y a une toute petite part variable qui s'ajoute à ça, mais à côté d'un site comme Presse Ministère qui prend, je crois, jusqu'à 25%, ou d'autres sites de vente de livres d'occasion, c'est raisonnable. Enfin, créer un compte professionnel pour vendre des livres d'occasion sur Amazon est plutôt une bonne opération, en ce sens que leur outil est vraiment bien fait, à la différence de certains sites dont l'architecture est moins efficiente. Les fiches des livres sont pour la plupart déjà créées, et la remise est moins étouffante que pour le livre neuf. Et je crois que la première année, on a fait 2 fois plus de chiffre d'affaires sur Amazon que dans la librairie elle-même. Sur l'occasion, dans la boutique qu'on a rue Linné, on faisait, si vous voulez, 10 euros de chiffre d'affaires dans cette boutique, pendant ce temps-là, on en faisait 20 sur Amazon. Quand on récupérait un lot de livres un petit peu intéressant, la boutique venait juste d'ouvrir, on n'avait pas encore de clientèle constituée, tous les livres intéressants partaient sur Amazon avant qu'on ait pu en vendre le moindre dans la librairie. La librairie était fréquentée par quelques dizaines, centaines de personnes. En référençant nos livres sur Amazon, on avait accès directement à des centaines de billets de clients français et étrangers. On vend beaucoup via Amazon.fr en Belgique, en Suisse et parfois en Europe et dans le monde. Autant pour le livre neuf, ils sont devenus très importants, mais ils n'ont pas révolutionné la façon qu'avaient les gens de travailler. Autant la librairie d'occasion, depuis 10 ans, Internet en général et Amazon en particulier a complètement changé la façon que les gens avaient de travailler. Il y a des libraires qui n'ont plus de librairie, des libraires d'occasion dans des petites villes de province, voire des créations de librairies où il n'y a pas de boutique. Le libraire est chez lui, a un espace de stockage dans un endroit où ça lui coûtera pas cher, enfin devient une espèce d'Amazon bis qui n'a pas la possibilité de s'offrir son propre outil informatique, donc qui sert de celui d'Amazon via une rémunération. Et qui vendent via ces plateformes sans jamais voir de leur vie un client.
Et ça tombe bien, parce que chez Jeff Bezos, l'homme qui aime la magie, les clients, son principe, c'est de ne jamais les voir. Les frais de port gratuits ou presque, il en a fait son fonds de commerce. Ces entrepôts gigantesques, situés, on nous l'a dit, en pleine pampa, lui permettent de stocker pour presque rien tous les livres nécessaires, et par conséquent, de pouvoir les expédier instantanément via un accord préférentiel négocié avec la Poste. Pourquoi alors est-ce que je prendrais le temps d'aller chez mon libraire pour y chercher un livre qu'il n'aura sûrement pas en stock, si je peux faire la même chose en robe de chambre depuis chez moi, en étant sûr de tout recevoir sous 48 heures et gratuitement?
Les libraires n'ont pas vu la vague Internet venir, et aujourd'hui, la librairie ne pèse rien dans le monde Internet. En gros, il faut savoir qu'il y a... la vente sur Internet, ça représente 20% des livres, donc une vente sur 5 est faite sur Internet. À l'intérieur de ces 20%, 70% est fait par Amazon. Donc il est archi-leader, mais tout le monde l'a laissé faire.
Jeff, il faudrait que tu le rencontres, ce garçon, il te plairait. Je te tutoie parce que chez Amazon, c'est comme ça que ça se passe, non? Donc il s'appelle Rémi Aupetit, il a créé une librairie à Paris, le Comptoir des mots, et lui, tu ne l'impressionnes pas. En fait, il l'a joué à la française et il a proposé à ses copains libraires de mutualiser leur stock. Tout comme toi. Et hop, fini les délais d'attente interminables. L'union fait la force. Alors tu en dis quoi, Jeff ?
L'idée qu'on a eue il y a 5 ans, c'était de mutualiser nos stocks pour permettre à nos clients de pouvoir disposer de plus de titres disponibles plus rapidement. comme ça marchait très très bien, ce qu'on a fait, c'est que 2 ans plus tard, on a monté le site internet lalibrairie.com, qui fonctionne en gros sur le même principe, avec lequel on a fédéré aujourd'hui 950 libraires en France. Donc lalibrairie.com, c'est un site internet comme les autres. Vous êtes devant votre ordinateur, vous commandez des livres, on vous propose de les recevoir très rapidement. Comment on fonctionne? Soit le livre que vous commandez est directement disponible dans la librairie où vous allez retirer votre commande. À ce moment-là, on vous le dit et vous allez le chercher tout de suite. Soit le livre n'est pas disponible tout de suite dans la librairie de votre point retrait. Et dans ce cas-là, on l'achemine, nous, dans un délai de 24 heures, puisqu'on a derrière ça un entrepôt avec un grand nombre de références. Donc, on est le seul site de vente en ligne à ne pas faire la livraison directement auprès des particuliers. On est très attaché à maintenir le lien social et donc on pense que c'est nécessaire que les gens puissent sortir de chez eux et aller au contact d'un libraire pour retirer leur commande. Partant du principe que si les gens commandent et se font livrer chez eux, ils vont très très vite oublier qu'il y a des librairies.
Les éditeurs aussi t'ont senti passer, Jeff. Tu as tellement bien réussi ton coup que, comme les libraires, ils ont tous voulu vendre leurs nouveautés sur ton site. Facile alors de leur imposer tes conditions. Jacques Gourceau, celui qui tout à l'heure vantait les mérites d'Amazon pour les livres d'occasion, Jacques Gourceau donc, est aussi à la tête d'une petite maison d'édition, Sillage, spécialisée dans les textes classiques. Des textes qu'il vend dans sa librairie, mais également sur Amazon. Et là, il avoue, la situation est nettement plus compliquée.
En tant qu'éditeur, Amazon fait des conditions très dures. Ils savent très bien qu'ils sont devenus indispensables depuis 10 ans pour les éditeurs, petits comme gros. Amazon nous demande 50% de remise sur un livre neuf qu'ils vont vendre sur leur site. Un livre qui vaut 10 euros sera facturé 5 euros quand ils l'auront vendu.
C'est des conditions qui n'existent nulle part ailleurs, ça?
Absolument nulle part, non, clairement. Un libraire qui fait une très belle opération sur notre catalogue va demander 42, pourquoi pas 45% de remise, et ça serait une remise exceptionnelle. La FNAC, avec qui on travaille beaucoup, demande 40%. Je crois que Chapitre, qui a un site internet qui a quand même une certaine importance, nous demande 35%. Amazon, depuis le début, ça a été 50%, et c'était à prendre ou à laisser. Donc on hésite à prendre, à laisser, et puis c'est un tel débouché qu'on prend.
Le risque, Jeff, on s'en doute, c'est que laisser à tes algorithmes le soin de nous conseiller de nouveaux livres, c'est à terme qu'on lise tous les mêmes best-sellers. Et ça ne fait pas rire du tout François Gèze, lui qui dirige depuis 30 ans les éditions de La Découverte.
Pour un éditeur comme La Découverte, on est pratiquement... pas loin de 15% de notre chiffre d'affaires est réalisé sur Amazon, ce qui est tout à fait considérable, sans que nous ayons rien fait pour cela. Et là, pour le coup, ça devient franchement inquiétant. Il y a une loi du commerce du livre qu'on a pu vérifier depuis de longues dates, depuis qu'on a mis en place la loi sur le prix unique du livre, en 81, c'est que plus il y a de librairies sur un territoire donné, sur une ville, sur une agglomération, et plus on vend de livres. Si demain, on se retrouve avec un client Amazon en l'espèce, qui arrive à 30 ou 40% du marché, comme c'est le cas aux États-Unis, du coup, on vendra globalement beaucoup moins de livres. Et donc, il y aura un affaiblissement de la création, tout simplement, et de la diversité de la création.
Selon une étude récente, il faut 18 fois moins de personnes pour vendre un livre chez toi que dans une librairie. Ah bon? Parce que chez toi, il y a des vrais gens qui travaillent? C'est pas juste des robots? Non, ce sont des vrais ouvriers qui travaillent dans de vraies usines, sauf que toi, tu préfères les appeler plateformes logistiques. J'ai voulu aller voir à quoi ça ressemblait, mais apparemment, ça n'était pas possible. J'ai donc cherché à voir quelqu'un qui y était entré.
L'entreprise Amazon refusait de communiquer. Je me suis rendu aux abords d'une usine, à Montélimar, et j'ai découvert, à ma grande stupéfaction, que les travailleurs refusaient de s'exprimer à propos de leurs conditions de travail. Ce n'était pas le cas lorsque j'avais voulu interviewer des ouvriers dans l'automobile, mais là, c'était le silence qui régnait. Ils étaient terrorisés à l'idée de voir un journaliste.
Jean-Baptiste Mallet est un jeune journaliste, coriace. Il a publié cette année un récit enquête en Amazonie, publié chez Fayard, est disponible aussi, sur Amazon.
Pour l'infiltrer, je me suis rendu tout simplement à Montélimar, j'ai emménagé dans une colocation et j'ai suivi le parcours classique des intérimaires. Donc je me suis présenté chez Adeco, qui recrute énormément de monde pour Amazon, ainsi que toutes les autres entreprises d'intérim. Et après un parcours du combattant, j'ai pu intégrer Amazon, où j'étais renouvelé de semaine en semaine. Et puis il faut savoir que quand on est intérimaire chez Amazon, on ne sait que le vendredi ou le samedi si on sera renouvelé le lundi. Donc vous imaginez les perspectives d'avenir que ça peut laisser. Ma première découverte chez Amazon, ce n'est pas que le travail était pénible, je m'attendais à réaliser un travail pénible. C'est d'abord l'hypocrisie et l'idéologie qui règne chez Amazon. On vous dit régulièrement, avant de commencer une prise de poste, éclate-toi bien, amuse-toi bien. Alors, au début, moi, je pensais que c'était une plaisanterie, que c'était ironique. En réalité, non. L'idéologie Amazon, elle est traduite par le slogan d'Amazon qui est « Work hard, have fun, make history ». Donc, travaille dur, amuse-toi, participe, écris l'histoire. Et donc, le work hard, ce travail dur, eh bien, il a une réalité, c'est la pénibilité du travail. Un piqueur marche, c'est le chiffre officiel des agences d'intérim, 20 km par nuit ou par jour de travail. En plus de toute cette pénibilité, il y a le have fun, et donc on va demander aux travailleurs de participer à des tombolas, on va leur donner des petits chocolats, des petits bonbons, ils vont pouvoir devenir déguisés en sorcières, travailler au moment d'Halloween, ou déguisés en clown ou en basketteur. En fait, tout un esprit à l'américaine qui peut sembler comme ça anecdotique sur le court terme et de prime abord, mais qui en réalité est quelque chose d'absolument terrifiant quand on réalise ce que le travail signifie pour Amazon.
La toute première plateforme logistique française, c'est à Saran, près d'Orléans, qu'elle s'est installée en 2007. C'est par là, encore aujourd'hui, que transitent la plupart des livres que tu vends en France.
Rond-point, prenez la première sortie vers rue du Champ Rouge.
À la sortie de la zone industrielle, un immense hangar en tôle ondulée, grand comme le Stade de France. C'est ici que j'ai réussi à rencontrer Sébastien et Clément, représentants CGT et donc bête noire de ton entreprise.
Bonjour.
Bonjour, vous allez bien ?
Ça va.
Tous les deux, vous pouvez vous exprimer parce que vous êtes syndiqué, on est d'accord. Sinon, vous n'auriez pas le droit de me rencontrer en tant que salarié d'Amazon.
Absolument, dans le règlement intérieur de la société Amazon.fr Logistique, les salariés n'ont pas le droit de parler à la presse. Les seuls qui peuvent parler à la presse, ce sont les représentants du personnel ainsi que les représentants syndicaux.
Ce qui est une entorse au code du travail français ?
Absolument. Le souci qu'on a, c'est que l'inspection du travail a validé le règlement intérieur de la société Amazon.
Si jamais vous n'étiez pas syndiqué, qu'est-ce que vous risqueriez en me parlant aujourd'hui ?
On serait certainement licencié pour faute grave. Ouais. Certainement. Toutes les heures, vous avez un chef d'équipe, dans le jargon chez Amazon, on appelle ça un lead ou une lead, qui vient vous donner vos productivités individuelles et la productivité de l'équipe. Et si vous n'êtes pas dedans, bah, vous remontez un peu les bretelles. Et pour les intérimaires, c'est encore pire, parce que si ils augmentent pas leur productivité, ça s'appelle une fin de mission.
En fait, c'est un malaise social dans l'entreprise actuellement. Et Amazon pourrait être une très très grande entreprise où il fait bon vivre, mais il faut changer la politique sociale, puisqu'actuellement il y a beaucoup de salariés, et ça la direction le sait, mais n'ouvre pas les yeux, c'est qu'il y a beaucoup de salariés qui se nourrissent malheureusement au secours populaire, qui n'ont pas assez d'argent pour finir les fins de mois. C'est tout à fait inacceptable, puisque les salariés viennent travailler, ils viennent gagner de l'argent, ils s'usent physiquement et psychologiquement dans ce travail, et au final c'est pour à la fin du mois qu'il leur reste 50 euros, même pas. On peut pas vivre avec 50 euros.
Donc c'est ça, Jeff, que tu me proposes pour remplacer mon libraire de quartier ? Ça donne envie.
Dans 4 États aux États-Unis, des salariés viennent déjà d'attaquer au niveau du droit Amazon, parce qu'effectivement, partout où les entrepôts Amazon sont construits, les pointeuses ne se trouvent pas à l'entrée de l'usine. Donc les entrepôts étant géants, il faut bien évidemment voir qu'en ce qui concerne les temps de pause, le simple fait de marcher 3-4 minutes pour atteindre la pointeuse, eh bien c'est du temps qui est du temps sur le lieu de travail, mais qui n'est pas rémunéré. Si vous volez 3 minutes à un travailleur, vous le multipliez par 4 ou par 6 dans la journée, ça fait déjà plus d'une dizaine de minutes. Quand vous multipliez ça par le nombre de jours travaillés, puis par le nombre de travailleurs, eh bien vous atteignez des milliers d'heures en fait, qui sont spoliées aux travailleurs. Ce n'est pas un hasard si le chiffre d'affaires d'Amazon a été multiplié par plus de 400 en fait en 10 ans. Aujourd'hui, Jeff Bezos, c'est la 19e fortune de la planète. Ce n'est pas dû au hasard. Ce que j'ai voulu montrer dans mon enquête, c'est pas simplement que le travail chez Amazon c'était pénible, c'est surtout que c'est une mutation du travail. Le travail de vente de proximité en centre-ville est parfois pénible, hein. Un libraire fait beaucoup de manutention, mais c'est aussi du conseil, c'est aussi un métier qui inclut une dimension sociale. Chez Amazon, vous avez des travailleurs hébétés qui sont réduits à l'état de robots, qu'on embauche sous le seul prétexte qu'ils coûtent moins cher justement que ces robots, mais plus pour longtemps, parce qu'Amazon a des programmes très sérieux pour robotiser et remplacer le travailleurs salariés. Donc en réalité, Amazon déjà détruit l'emploi quand il s'implante. Ce que ne voit pas un petit élu qui défend son clocher et qui est très content d'annoncer la création de quelques centaines d'emplois.
Nul doute qu'un jour ou l'autre, tes robots, Jeff, auront bel et bien remplacé les salariés dans tes plateformes logistiques. Je pourrais alors cliquer tranquillement, sans culpabiliser, et patienter en robe de chambre qu'arrive le livre que ton algorithme m'aura choisi. En attendant ce jour béni, les parlementaires français ont décidé de se rebiffer. « Fini les frais de port gratuits en plus des remises », ont-ils proclamé, comme un seul homme, au terme d'un débat dont, je suis sûr, tu auras apprécié le lyrisme.
Madame la ministre, monsieur le président, chers collègues.
Elle, c'est Sophie Dessus, députée socialiste de la Corrèze. La Corrèze, qu'est-ce que c'est? Laisse, je t'expliquerai.
Il y a des jours et des nuits où dans cette enceinte, il peut y avoir des moments de grâce, comme la culture seule peut en apporter. Et il me semble qu'aujourd'hui, nous allons en partager un. Moment de grâce, quand nous nous retrouvons autour d'un texte gouvernemental, précis, concis, simple, efficace, un texte qui nous ramène à l'essentiel de la loi Lang sur le prix unique du livre. Et pas la peine de chercher à financer en la contournant, pas la peine d'essayer de ne pas faire payer les frais de port, tout en pratiquant la décote autorisée de 5%. Ce texte rappelle que le prix du livre est unique et que la loi est la même pour tous.
Alors, tu trembles, Jeff, hein ? Allez, ne t'inquiète pas, ça changera pas grand-chose. On ne se fait aucune illusion. Et Jacques Gourceau, le libraire, pas plus que les autres.
Je sais même pas si vraiment ils vont devoir faire payer les frais de port. Je pense qu'ils vont abandonner les 5% et conserver la gratuité des frais de port. 5% d'un livre de poche, ça change pas grand-chose. Si ça peut éviter à quelqu'un de faire 10 km ou 3 quarts d'heure de métro pour aller chercher son livre dans une librairie neuve, je pense que les gens vont continuer à acheter sur Amazon. Est-ce que vraiment la situation, l'équilibre des forces va s'en trouver modifié? J'en suis pas sûr.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre qui a peur du grand méchant Amazon. Au mixage, Géant Richard Dufour. Merci à Jacques Martinet, à Jean-Baptiste Mallet, à Amandine, à Jocelyne de la librairie du coin à Châteaudun, à Jacques Gourceau, à Rémy au Petit, à François Gèze, à Sébastien Boissonnet et à Clément Jamin. L'attaché de production, c'est bien sûr Sandrine Chaperon.
C'était Les Pieds sur Terre, Amazon, l'algorithme contre le libraire, une émission proposée par Amaury Chardot, diffusée la première fois le 4 novembre 2013 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.